Le bonheur est pour demain dans les méandres de l'amour.
Absolument. Et voyez, Pierre Perret dit bien, celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Vous voyez donc qu'il sait, et nous sommes bien dans notre sujet, la connaissance. Hein. Ça me gêne aujourd'hui de dire, bon, be happy, soyez heureux, d'entendre dire ça. Et à la télévision, justement, les paillettes et le strass, si vous voulez, dans ces émissions-là dont je parlais, me semblent obscènes par rapport à ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, hein, et ce que nous voyons vraiment autour de nous. Hein. Alors vous me direz, bon, c'est un opium qui fait rêver les gens d'autres choses, hein, mais moi je crois que finalement, cela peut susciter en nous un grand sentiment de révolte. Hein. Vous savez, de regarder une scène, comment dire, tragique, la visite d'un hôpital, par exemple, hein, ne rend pas cruel, pas du tout. Au contraire, elle nous rend compatissants. Mais les paillettes et le strass de la télévision peuvent nous rendre cruels. Pourquoi ? Parce que nous pouvons exploser et faire manifester ce que les Allemands appellent le démonique. Hein. Bon, vous voyez ce que dit Baudelaire, « Quelquefois, dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchiré mon sein, et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. » Vous voyez, donc imaginez une belle pelouse avec les rayons d'un soleil couchant, un pays paradisiaque, une vision paradisiaque. Eh bien, Baudelaire sent cela comme une ironie, parce que lui, il souffre. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrache, il prend une fleur, il l'arrache, hein, et de rage, il va la piétiner, vous voyez. Ça vous choque pas, Redouane, cette réaction ? Elle est tout à fait humaine, cette réaction. Hein.
Disons que par extension, on pourrait comprendre peut-être ce qui se passe aussi aujourd'hui dans ce monde de violence, où souvent certains cherchent le chaos par rapport à leur dénoncement du monde, par le fait de ne pas trouver leur place, et quand on ne trouve pas sa place, on a envie de tout casser. Comme parfois, on voit ça sur les plages, où il y a des enfants qui construisent un château de sable, et puis d'autres ne réussissant pas, ben ils viennent casser celui du voisin.
Absolument. Oui, oui, mais moi ce que j'entends par là, cette réaction, cette compulsion justement violente vient d'un décalage, la vision d'un décalage entre l'irréalité des représentations que l'on nous propose, hein, je reprends l'exemple de ces émissions de divertissement à la télévision, hein, et puis ce que nous sentons et de nous-mêmes, et ce que nous sommes nous-mêmes, et puis ce que nous voyons aussi en ouvrant les yeux. Alors je vais prendre un deuxième exemple, hein, pour montrer qu'il est difficile de savoir comment se comporter. Avec une conduite aimante, qui aime vraiment. Prenons l'exemple d'un enfant maltraité par ses parents. Alors bien sûr, il est parfois indispensable de l'éloigner de ses parents. Et on croit naturellement que lui manifester de l'amour à cet enfant consiste dans le fait de l'éloignement, hein, on le place ailleurs. Bon, mais je dirais que la décision n'est pas forcément parfaite, car même si l'enfant est battu, il peut aimer ses parents tout de même, vous voyez, et derrière les êtres réels qui le martyrisent, il peut vouloir encore continuer à voir ses parents idéaux, ses parents archétypaux, dont j'ai parlé dans une émission précédente, car ses parents, il y tient, et au moins ils sont à lui, ou ils sont en lui, et il n'a rien d'autre à quoi se rattacher. Vous voyez, comme toujours dans le monde affectif, il est rare qu'il y ait des solutions simples. Alors c'est vrai que l'assistante sociale et le juge peuvent décider d'un éloignement, d'un placement ailleurs, mais c'est difficile, parce que un enfant, c'est paradoxal, peut continuer d'aimer ses parents, au moins l'image qu'il s'en fait, l'image idéale, même s'il est maltraité par eux, vous voyez. J'aimerais pas être à la place de ceux qui prennent une décision là-dessus. Hein. C'est extrêmement difficile. Alors Freud a parlé à propos de certains malades du refus de guérir, ce qu'il appelait une compulsion négative ou un refus du dénouement de leur névrose, hein, parce que au moins cette névrose fait la vie de ces patients, et si on tente de les aider, on peut s'exposer à de violentes explosions analogues à celles que j'évoquais à l'instant, hein, car le malheur dont ils souffrent, hein, le mal qui leur a été fait est si grand qu'ils le revendiquent à leur tour pour eux-mêmes. Et là, je vais citer quatre vers de Racine, dans Andromaque, c'est Oreste qui les prononce. De quelque part ici que je tourne les yeux, je ne vois que malheur qui condamne les dieux. Méritons leur courroux, justifions leur haine, et que le fruit du crime en précède la peine, vous voyez. Donc voilà l'explosion démoniaque, si vous voulez, du personnage qui, en ne voyant autour de lui que des catastrophes, il dit les dieux finalement sont absolument impuissants à les arrêter, et donc je vais moi-même me précipiter dans la révolte, peut-être dans le blasphème, si vous voulez, si l'on est croyant, parce que j'ai trop mal en moi. Alors vous savez, l'école parle du doux et tendre Racine. Je ne sais pas si quand vous étiez au lycée, Redouane, on vous a un peu laissé qualifiant pour Racine. On disait le doux et tendre Racine. Eh bien, ce n'est pas vrai. Les quatre vers que je viens de citer montrent que Racine n'est pas doux et tendre, ou même pas tout le temps. Il y a dans ce que dit Oreste, je le répète, ce que les Allemands appellent le démonique. Et il faut beaucoup dans cette révolte, révolte postulatoire, au nom justement d'une réalité problématisée, si vous voulez. Il faut donc beaucoup de réflexion et de maturité pour éclairer un amour même du type d'agapé, et il faut beaucoup, c'est-à-dire de don, agapé, le don, et il faut beaucoup d'observation de la vie aussi. Je vais prendre un nouvel exemple. Supposons qu'un enfant soit très sensible, hypersensible. Eh bien, on lui refuse un bonbon, par exemple. Alors, plus tard, de rage, il piétinera tous les bonbons. Et ne pas le comprendre, c'est ne rien comprendre au cœur humain. Et de la même façon, les mères et les puéricultrices vous le diront, lorsqu'un enfant a très faim, et lorsqu'il crie, il devient tout rouge à force de s'étrangler, eh bien, avant de lui donner à manger, il faut le calmer, et lui donner à manger petit à petit, de peur qu'il ne s'étouffe. Alors, un amour qui serait indiscret, c'est-à-dire qui manquerait de connaissance, qui ne penserait pas à cela, serait ici catastrophique, vous voyez. Donc, il faut, l'amour s'apprend, vous voyez, Redouane. C'est tout le sens de notre émission, parce qu'il y a différentes façons d'aimer qui ne sont pas équivalentes en qualité, vous voyez. Alors, je sais bien que je vais jeter peut-être l'indécision dans le cœur des auditeurs, mais quand je dis que l'amour s'apprend, qu'il n'est pas naturel, ce n'est pas, bon, il faut réfléchir la façon dont on va se comporter. C'est pour prévenir certaines catastrophes. Prenons un autre exemple. J'aime beaucoup les exemples concrets. Un amour qui serait trop condescendant ou paternaliste. Je pense au film de Chabrol, La Cérémonie, qui est sorti en 1994 et qui est tiré du roman de Ruth Rendell, L'Analphabète. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film.
Oui, il y a longtemps.
L'avez vu,
Redouane, oui.
Voilà. Alors, l'héroïne qui est issue de milieux populaires, elle est jouée, je crois, par... c'est Isabelle Huppert. Il y a Isabelle Huppert et puis... Sandrine Monner. Voilà, c'est Sandrine Monner. Elles sont deux, d'ailleurs, dans le film. Sandrine Monner est employée, justement, comme bonne à tout faire, par un ménage de grands bourgeois, avec Jean-Pierre Cassel, etc. Bon, alors, son problème, c'est qu'elle ne sait pas lire, Bon, alors un beau jour, eh bien, le fait qu'elle soit analphabète est découvert par, justement, ses employeurs. Et alors elle souffre, elle est humiliée par son incapacité à lire. Et alors, son employeur, qui est un grand bourgeois qui se croit humaniste, propose de lui offrir des leçons pour pallier ce manque. Et elle s'en ressent très humiliée, et finalement, loin d'être aidée par son employeur, le fait que on lui propose justement de sortir de son état est une, quelque chose qui la cloue au pilori, au point qu'à la fin, elle va massacrer toute sa famille au service de laquelle elle a été embauchée, vous voyez. Donc, c'est difficile, vous voyez, quelqu'un ne sait pas lire. Est-ce que nous allons lui proposer d'apprendre à lire ou de lui payer des leçons? C'est pas évident. Elle peut, l'autre peut, ou alors il faudrait le faire avec beaucoup de discrétion, vous voyez, beaucoup de tact, mais c'est pas le cas, de ce grand bourgeois. Alors la fin, est, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Redouane, la famille bourgeoise écoute du Mozart, hein, je crois qu'elle écoute Don Giovanni de Mozart, et puis les deux jeunes filles, hein, Bonheur et Huppert, prennent un fusil de chasse et vont tirer, faire éruption dans le salon et tirer pour massacrer justement cette famille-là. Hein. Alors le contraste entre la musique de Mozart qui incarne l'humanisme, si vous voulez, la vie policée, la vie civilisée, et puis cette sauvagerie qui s'exprime par ces coups de fusil, ce massacre, c'est quelque chose de très impressionnant. La donnée de la pièce, enfin du film de Chabrol, est comparable à la donnée des Bonnes de Jean Genet, hein, qui est une pièce inspirée d'un fait réel, le cas des sœurs Papin qui ont assassiné leur maîtresse. Hein. Alors on passe très facilement de la souffrance au crime. Et il y a aussi un film de Jean-Pierre Denis, Les blessures assassines, qui est sorti en 2000 et qui traite de la même histoire. Et le titre est bien significatif, Les blessures assassines, vous voyez. Alors, entendons-nous bien. Je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas agir dans l'amour, qu'il ne faut pas venir en aide à l'autre, hein. Mais simplement, je veux dire qu'il ne faut pas se jeter à sa tête d'une façon irréfléchie, vous voyez. Il faut bien évaluer l'ensemble de la situation, les demandes, mais aussi l'absence de demandes de l'autre, hein. Et par exemple, donc, le personnage dont je viens de parler ne voulait pas, justement, que l'on découvre son analphabétisme, hein. Bon, voilà, hein. Donc, là, l'écoute est essentielle. Il faut écouter ce que l'autre veut et ce qu'il ne veut pas, ce qu'il passe sous silence, vous voyez. Alors, il faut éviter toute projection. Je rappelle que la projection, c'est un phénomène psychologique en vertu duquel nous projetons sur l'autre des désirs que nous imaginons qu'il a, hein, dont nous imaginons qu'elles sont en lui, alors qu'elles ne sont pas. En fait, c'est nous-mêmes que nous projetons chez les autres, hein, éviter les projections. Il faudrait objectiver les choses et essayer de peser autant qu'on le peut quelles pourront être les conséquences de nos actions, vous voyez, parce que il y a une loi tragique que j'ai déjà signalée, en vertu de laquelle tout acte engendre des conséquences dont l'agent, dont l'auteur ne s'est pas douté forcément au départ, vous voyez. Et il faut réfléchir aussi aux différences psychologiques, le caractère de chacun, les différences circonstancielles et éducationnelles, le poids du passé qui pèse sur chacun, et enfin les différences culturelles qui peuvent séparer au sein d'un couple même les partenaires qui peuvent, pour ces raisons mêmes, ne pas organiser de la même façon les mêmes situations, ne pas leur conférer un sens identique. J'ai déjà, dans une émission consacrée à la loi d'attraction-répulsion, qui est un chapitre de mon livre, j'ai déjà parlé de la ponctuation, au sens métaphorique. Hein. Les êtres ne ponctuent pas, c'est-à-dire n'organisent pas exactement de la même façon la même situation, vous voyez, et tout cela relève bien de l'information à acquérir, donc de la connaissance, bref, de la pensée. Alors, vous voyez, Redouane, j'aime bien faire des étymologies. Penser et peser, c'est la même chose. En latin, pensare, vous voyez. Et c'est aussi élaguer, émonder, tailler dans tous les sens, dans tout ce qui est possible, hein, dans tout ce qui s'offre à nous, hein, dans l'éventail des possibles. Ce que dit le latin putare, hein, d'où les deux mots français qui en proviennent, supputation et amputation, vous voyez, hein. Donc, putare, qui veut dire penser en latin, veut dire aussi tailler, hein. Je ne sais pas si vous faites du jardinage, Redouane, peut-être que vous en faites, je ne sais pas, vous en faites, je vous vois opiner du chef. Alors, qu'est-ce que c'est que tailler un arbuste? C'est réfléchir. Hein, si on ne réfléchit pas, on fait n'importe quoi. Hein. Bon, donc il faut tailler, peut-être laisser telle branche qui, elle, amènera la sève plus haut, etc. Donc on ne taille pas si on ne réfléchit pas. Et poutare, hein, en occitan, c'est poudard, hein, donc tailler. Hein. Donc c'est le même mot, et c'est penser aussi. C'est pour ça qu'aucune machine ne pourra faire une taille automatique, vous voyez. Hein. Une machine pourra faire du labour, si vous voulez, pourra arracher les mauvaises herbes, mais tailler, par exemple, tailler la vigne, tous les vignerons le savent, aucune machine ne peut le faire. C'est simplement l'esprit humain qui peut le faire, vous voyez. Et alors, de la même façon, dans nos relations, il est très difficile de tailler dans le tissu des attitudes et des paroles. Alors, je sais bien, comme objectera la chose suivante, on peut se paralyser si on réfléchit trop, si on pense trop, si on suppute trop les supputer, vous voyez, ça c'est poutard, hein, les conséquences possibles de ses actions. Je pense à ce que dit Scapin dans Les Fourberies de Scapin de Molière. Je hais ces âmes pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Et je sais aussi qu'un amour inconditionnel, c'est-à-dire non pesé ou évalué, c'est la plus belle chose au monde, et qu'on peut parfois, et puis même que parfois on doit aimer les yeux fermés, hein. Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés, pour reprendre le titre du dernier film de Kubrick, sorti en 1998. Mais ce sacrifice de l'intellect, ce sacrificium intellectus, doit venir, à mon avis, après que l'intellect s'est exercé, comme parachèvement et reconnaissance de son dépassement nécessaire. Je sais bien que l'ignorance savante, la docta ignorantia, ignorantia, c'est le suprême but à rechercher. Elle n'est pas, de toute façon, l'ignorance brute ou première qui fait tant de ravages. Et il est bien vrai que l'amour peut déboucher sur un nuage d'inconnaissance, pour reprendre le titre d'un ouvrage spirituel anglais anonyme du XIVe siècle, « The Cloud of Unknowing », je prononce mal, excusez-moi. Mais ce n'est qu'après avoir bien réfléchi qu'on peut abdiquer la réflexion, hein, dire à celui ou à celle que l'on aime « Je ne sais pas ce que tu veux, je ne te comprends pas, mais vas-y, fais-le, je te fais confiance », ça c'est la plus belle parole d'amour possible, d'accord, hein. Mais parce qu'on quitte le raisonnement pour se confier en aveugle au grand bras de la vie, vous voyez. Mais c'est un acte, une abdication volontaire et ultime, et il ne faut pas poser l'aveuglement au départ, si vous voulez, parce que si vous le posez au départ, vous ne pouvez pas progresser, justement, dans la voie que j'ai tracée. Alors j'ai choisi comme deuxième virgule musicale une chanson ancienne de Michel Delpech qui s'appelle « Les divorcés », qui permet de réfléchir sur les raisons pour lesquelles un couple s'est séparé.
Dans les premiers temps, donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même s'aimer, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie, j'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi, en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu, entre nous, la vie continue, malgré tout. Tu sais, maintenant c'est passé, mais au début j'en ai bavé, je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux, mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux, et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie, ce serait merveilleux pour elle. Si s'est fichu. Entre nous, la vie continue, malgré tout. Les amis vont nous questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon, c'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux, et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu, entre nous, la vie continue, malgré tout.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du réseau FM+, sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien le 103.1 Radio Alliance Plus, agglomération nimoise. Et puis donc, cette chanson, moi, qui me fait penser, c'est tout le contraire de ce qui s'est passé dans le film Kramer contre Kramer.
Absolument, là, il y avait un duel, hein, effectivement. Elle est très belle, cette chanson, je trouve. Elle est simple, hein. Elle est bête comme la vie, hein. La vie continue malgré tout. Alors pourquoi un couple, justement, peut-il échouer, hein? Eh bien, peut-être parce que chacun a trop d'amour propre. Alors là, nous allons entamer un nouveau chapitre que nous ne terminerons pas, bien sûr, hein, dont nous allons simplement exposer le thème essentiel. Amour et amour propre, hein. Il me semble qu'un des grands ennemis de l'amour, c'est l'amour propre. Hein. L'amour propre vient d'une survalorisation de l'ego. Hein. L'ego, c'est le moi en latin, ce que j'appelle souvent trivialement le tout à l'ego. Hein. Et l'ego ne veut pas baisser pavillon dans la relation engagée et dans ses épreuves qui la guettent tout le temps. Car il ne faut pas être angélique, hein, Redouane. Les fâcheries et les disputes existent toujours, hein, même dans les couples les plus unis. Hein. Bon. Alors peut-être cet amour-propre vient-il d'une importance excessive qu'on donne au regard des autres. On s'imaginerait déchoir si l'on acceptait sa défaite, au cas où peut-être il viendrait à le savoir. On se fait un point d'honneur de ne pas le faire. Par exemple, si on capitule, bon, vous voyez, terme militaire, hein, on capitule devant sa partenaire, si l'on est un homme, eh bien, les amis vont dire, ben, c'est elle qui porte la culotte, comme on disait trivialement, vous voyez, il n'a pas de virilité suffisante, etc. Donc, le regard des autres peut nous paralyser, hein, et quand nous le survalorisons, alors, nous nous faisons un point d'honneur. Alors, ce fameux point d'honneur, de ne pas justement le décevoir. Vous savez, je trouve que l'honneur, Edouard, je pense qu'on pourra terminer là-dessus, hein. L'honneur, c'est quelque chose d'absurde. Hein. Prenez par exemple le site de Corneille. Hein. Le point d'honneur, c'est une soumission ridicule à la tyrannie du quand dira-t-on. Hein. Et vous voyez, par exemple, il m'a manqué. Hein. Bon, Rodrigue va tuer un homme simplement parce qu'il a été souffleté, vous voyez. Bon, est-ce que c'est une raison, hein, pour un soufflet, hein. Mais aujourd'hui, c'est la même chose, hein. Il m'a mal regardé, vous voyez ce que disent les jeunes, hein, il m'a manqué de respect, vous voyez, hein. Et d'ailleurs, je suis persuadé que s'il n'y avait pas la difficulté du style, vous voyez, Redouane, le style de Corneille est très difficile, hein. Bon, eh bien, les jeunes des banlieues comprendraient tout à fait cette pièce, hein. Il m'a marché sur les pieds, on m'a manqué de respect, donc je vais me venger, etc. Vous voyez. Donc, je trouve ça totalement ridicule. Hein. Les jeunes valorisent tant le respect qu'on leur doit, ainsi que la préservation de leur honneur contre ceux qui sont censés y porter atteinte, hein, que bon, ils réagissent d'une façon instinctive ou animale. En réalité, vous voyez, Redouane, l'honneur, tient à ce que l'on fait soi-même et non pas à ce que l'on nous fait. Quelqu'un nous gifle, eh bien c'est lui qui est déshonoré par ce qu'il a fait. Et on n'est pas déshonoré par ce que l'on nous a fait, vous voyez. Si quelqu'un nous agresse, c'est lui-même et non pas nous qu'il déshonore. Prenons aussi un exemple à propos des fameux crimes d'honneur qui existent dans les sociétés archaïques et qui existent encore. Une femme violée n'est pas déshonorée, pas du tout. Elle est victime d'un crime. Et c'est son agresseur qui s'est déshonoré par ce qu'il lui a fait, vous voyez hein. Bon, c'est absurde cette idée. Je vois que vous êtes tout à fait d'accord avec moi, Redouane.
Oui, tout à fait.
Les crimes d'honneur, pourquoi ça perdure? Parce qu'on considère la femme comme sa propriété. Voilà, hein. Et donc, il ne faut pas qu'on porte atteinte à notre propriété. Hein. Et c'est terrible, ça, hein, c'est terrible. On dit elle est déshonorée. Mais non, pas du tout, pas du tout. Hein. Au point que parfois, certaines femmes victimes de viol hésitent à aller porter plainte, vous voyez, parce qu'elles ne veulent peut-être pas que cela se sache, pour ne pas perdre la face aux yeux de la communauté, si vous voulez. Hein. Mm-hmm. Mais c'est affreux. Sartre a raison quand il dit « l'enfer, c'est les autres hein. ». C'est les autres, c'est-à-dire le regard de l'autre porté sur moi. Hein. Vous voyez, et je pense à ce que disait Sacha Guitry, on pourrait terminer comme ça, Redouane. Sacha Guitry disait « Si les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. » Vous voyez, ils en diraient bien davantage. Donc arrêtons de survaloriser l'honneur et donc l'amour propre. Alors la suite au prochain numéro. Nous avons écouté simplement la dernière chanson, qui est une chanson à partir d'un poème de Verlaine, très belle chanson que je commenterai la fois prochaine. Léo Ferré, écoutez la chanson bien douce.
Merci Michel, donc on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine, même longueur d'onde, pour la même heure, et on vous souhaite d'avoir moins d'amour propre et surtout beaucoup d'amour.
Ouais.
À la semaine prochaine.
Au revoir à tous.
Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète. Elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée. Pourtant, comme elle est encore fière, et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne. Cachez montre au cœur qui s'étonne, la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et des noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse.